Je sais pas si vous vous êtes donné le mot. Je prêchais mercredi chez les jeunes de face à face. Et c'était le cantique qui a clos les chants et qui a commencé la prédication. Ce soir, c'est encore la même chose. Pour moi, vous avez lu dans mes pensées comme quoi c'était mon chant, un des chants préférés que j'aime. Merci en passant, ceux qui ont choisi les chants. J'aimerais qu'on tourne, s'il vous plaît, dans Éphésiens, chapitre 6. Ah, merci, la lumière fut. Et Denis vu que c'était bon. Éphésiens, chapitre 6, et on commence au verset 10, s'il vous plaît. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ce que nous faisons ce soir, le texte que nous regardons ce soir, c'est une préparation. C'est une préparation dans le but d'un combat. Et ça revêt toute son importance. La préparation est importante. N'importe quelle préparation est excessivement importante. Je pourrais demander à Raymond, la préparation avant de tirer les joints sur une maison, la préparation avant, monter le mur, mettre le gibroc, c'est important. C'est presque aussi important que de tirer les joints. Je pourrais me tourner vers des étudiants et vous parler d'une préparation. Je vous donne un examen de biologie, là, tout de suite, bang! Vous allez me dire, hey, wow, on n'a pas eu le temps de se préparer. Il n'y a pas question que je le fasse, ton examen. Donne-moi le temps de préparation. J'ai besoin d'être préparé aux choses que je vais faire. J'ai besoin de m'investir, j'ai besoin de connaître où est-ce que je m'en vais. C'est ce que le texte-là nous dit. Une préparation au combat. Et cette préparation-là va nous dire si nous avons une vie de victoire ou de défaite dans notre combat. La préparation va tout faire, va faire 90% du travail. Si nous sommes bien préparés, nous aurons une vie de victoire. Mais si nous négligeons la préparation, nous sommes faits. Je me vois très mal enseigner une matière à laquelle je ne me suis pas préparé. Ça m'est arrivé une fois. J'ai été mis comme ça, là, de but en blanc, dans une matière que je ne connaissais pas. Et les étudiants ont rien retenu de ce que j'ai dit. Le prof régulier qui est arrivé le lendemain, il a dû recommencer tout ce que j'avais dit. Il n'avait rien compris. Pourquoi? Je n'étais pas préparé. Et si nous ne sommes pas préparés, c'est la défaite. Le verset 10 de notre texte. Aux frères, au reste, c'est-à-dire pour ce qui reste à dire, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'ai cru pendant un bon bout de temps que ce texte-là n'était qu'à la fin de la toute puissance. Je croyais qu'il y avait une virgule et qu'on continuait en disant « revêtez-vous de toutes les armes ». Mais si vous remarquez bien, il y a un point. Et on arrête la phrase là. C'est une idée. Dans la phrase, il y a une idée complète. Et cette idée-là, c'est l'idée la plus importante de toutes les textes que vous allez voir jusqu'à la fin du chapitre. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Pourquoi se fortifier? Et pourquoi qu'on parle de combat? Je mentionnais qu'il y avait un combat qu'on menait. Vous êtes conscient qu'on est dans un combat. Là. C'est clair dans votre esprit qu'on est dans un combat. Si ce n'est pas clair dans votre esprit, si vous dites, un combat? Hein? C'est quoi cette affaire-là? Toute vie chrétienne a un combat. Un combat contre le mal. Si vous n'en avez pas, référez-vous aux paroles du Seigneur Jésus lorsqu'il dit que un serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Et parfois, persécuter ne veut pas dire crier des injures. Parfois, persécuter, ça veut dire entraîner vers quelque chose qui est très attirant. C'est ça aussi, persécuter. Et nous, on a un combat pour ne pas tomber dans le mal. Et voilà le combat que l'on a amené. Si vous n'en avez pas de ce genre de combat-là, posez-vous des questions. Posez-vous les vraies questions. Donc, le Seigneur nous demande, dans ce combat-là, la première chose, soyez forts. Endurez avec force. Littéralement, c'est revêtez-vous de force. Soyez forts de la tête aux pieds. Se revêtir dans le sens au complet. Je ne veux pas juste renforcer mon bras gauche ou mon bras droit ou mon pied. Non. La force qui m'envahit au complet. C'est-à-dire que je dois rechercher qu'est-ce qui est faible en moi. Qu'est-ce qui est faible? Où est ma faiblesse? Où sont mes faiblesses? Quel aspect de moi qui ne ressemble pas à Christ? Qu'est-ce que je devrais changer? Et je devrais faire une introspection. C'est pas toujours facile, ça. Faire des introspections, se regarder dans le miroir, puis se regarder tel que l'on est, s'examiner et pas se mentir. Oui, je suis comme ça. Et ça, c'est une faiblesse. Et je devrais changer cela. Soyez fort de la tête aux pieds. Examinez ses attitudes. Examinez mon caractère. Examinez ma progression dans cela. Soyez fort de la tête aux pieds. Le verbe ici, fortifiez-vous, prend une forme passive. C'est-à-dire qu'il devient une action qui se continue. Soyez fort d'une manière continue. Soyez toujours fort. Soyez continuellement fort. Lorsque l'Esprit a dirigé Paul à écrire ce verset aux Éphésiens, il avait dans la tête, si l'Esprit a une tête, il avait dans sa pensée, dire que Raymond se renforcerait jour après jour. Il avait en tête que Mathieu ou que Pascal se renforcerait ou que Guillaume se renforcerait jour après jour, continuellement. Ce verset-là s'adresse à chacun de nous et vraiment dans notre vie intime avec le Seigneur. Nous devons toujours rechercher cela, ce renforcement. Le commandement devient un entraînement. Je dois m'entraîner à me renforcer afin de gagner de plus en plus de force. Exactement comme l'haltérophilie qui s'entraîne pour lever toujours plus pesant, parce que c'est son but. Mais notre but, c'est de renforcer notre relation avec Dieu. Quelque chose qui devrait être encore plus soudé. Et toujours dans le temps. Il est important de comprendre que si nous sommes fortifiés dans le Seigneur, ce n'est pas par nos efforts qu'on se renforcit. C'est absolument pas par nos efforts. On n'arrive à rien par nous-mêmes. Mais c'est dans les dépendances au Seigneur, dans une relation intime et continuelle avec lui, qu'on va être fort, qu'on va se renforcer. Il est absurde de penser que mon caractère, mon service, ma marche sera meilleur par mes efforts. Mes efforts n'ont absolument rien à voir dans cela. Tout mon être se fortifiera par la qualité de la relation que j'ai avec Christ. Et c'est la seule manière que la Bible nous dit que l'on peut être fortifié. On mélange souvent service et relation. On pense que parce qu'on fait beaucoup de choses pour Dieu, qu'on a automatiquement une bonne relation avec Dieu. Hey, lui, il prêche en avant, il doit être en relation avec Dieu, certain. Hey, lui, il fait tellement de choses dans sa vie chrétienne. Ah, il doit avoir une relation super haute. Mais il n'y a rien d'aussi faux. J'ai jamais vu de rien de plus faux que ça. J'ai vu un homme prêcher pendant des années. Et le monde disait, « Ah, c'est un bon prédicateur. » Et cet homme-là, durant le nombre d'années qu'il prêchait, avait des relations extra-conjugales avec plusieurs femmes. Et il prêchait. Croyez-vous qu'il avait une bonne relation avec Christ? Pourtant, il prêchait et il prêchait bien. La relation et le service sont deux choses complètement différentes. Comme d'habitude, j'ai encore oublié d'avancer les PowerPoint. Je me prépare à recevoir les armes de Dieu. J'aimerais qu'on divise le texte en deux points. Premièrement, mes aptitudes, mon attitude, le verset 10. Et deuxièmement, le verset 11 à 13, mon équipement. Face premièrement à la nature du combat et aux résultats à atteindre. Je m'excuse d'avoir coupé le message comme ça. Je disais que le service et la relation étaient deux choses complètement différentes. Et le meilleur exemple que l'on peut mentionner, c'est celle dans la parole de Dieu, où justement, dans l'Apocalypse, chapitre 2, où ce que Jean parle de l'église d'Éphèse, qui est la même église que l'on parle là présentement. Et ces gens dans l'église d'Éphèse avaient une vie chrétienne hors pair. Écrit, et l'ange écrit à l'église d'Éphèse, « Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui disent apôtres et qui ne le sont pas, que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » À première vue, on regarde cette église-là et on dit, « Wow, hein? J'aimerais ça. Moi, être de même, moi aussi. Ça, c'est vraiment, là, c'est bon. J'aimerais ça. » Sauf qu'il vient le verset 4, où ce que le Seigneur dit, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Voyez-vous, le service et la relation avec Dieu deviennent deux choses complètement différentes. Avec le regard de Dieu, même si c'était une église active, le cœur était plus au service qu'à la relation. Ils se sont refroidis. Mais ils ont fait un paquet de coutumes. Ils ont continué à faire ce qu'ils ont toujours fait. Ah oui, c'est des apôtres, mais c'est pas des apôtres. Je suis capable de comprendre, je suis capable de voir les choses. Je suis un expert de la parole de Dieu. Mais d'après ce qu'on peut comprendre, ils n'étaient pas des experts dans la relation d'amour qu'ils avaient avec Dieu, avec Christ. Et c'est là le désastre. Faisons attention à notre relation avec Christ. Et c'est là la première chose que vous devez faire pour gagner, avoir la victoire dans le combat. Quelle relation est-ce que j'ai avec Christ? Le texte ne dit pas « Fortifiez-vous dans votre travail, fortifiez-vous dans vos dons, fortifiez-vous dans votre capacité, mais fortifiez-vous dans la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur. » La vie chrétienne est d'abord relationnelle. C'est la première chose. Avant d'être super active, elle est relationnelle. Je vous en ai parlé mercredi passé de la relation avec Dieu. Vous, les jeunes, de face à face. Mais c'est d'abord là qu'il faut regarder quelle relation j'ai. Une relation, pour qu'elle soit vivante, doit toujours être nourrie. Que ce soit avec Christ ou avec les autres, et plus il y a de proximité, plus elle a des besoins. C'est comme un couple. Un couple va être fort dans la mesure que leurs relations sont entretenues. Avec Christ, c'est la même chose. Christ, ma vie, sera ma force si je nourris ma relation avec lui. Ça fait 39 ans que je suis marié avec Hélène. Et Hélène n'aime pas ça quand je parle d'elle dans mes messages. Mais nous avons réalisé, il y a peu de temps, que nous avions encore des choses à changer dans notre relation l'un avec l'autre. Ça fait 39 ans, ça devrait être longtemps que c'est fixé, ça. Là. On ne devrait plus avoir de problème avec ça. Et non. On est obligé encore de s'écrire, voici, j'aimerais que tu fasses ça maintenant, je voudrais plus que tu fasses ça. Et pensez-vous qu'avec Christ, c'est la même chose? Christ veut nous changer. Il veut avoir une relation constante et il veut que l'on développe cela. Je pèse beaucoup sur le point parce que je crois que c'est la pierre angulaire dans le combat. C'est la première chose à regarder. Quelle relation que j'ai avec Christ. Et par sa force toute puissante, par sa grâce, par la prière, par la connaissance de la parole, par nos activités qui deviennent plus efficaces, par la puissance qui réside en lui. Pas en moi, en lui. Je tire la capacité de faire l'œuvre de Dieu de la force qui m'insuffle. Et c'est 2 Corinthiens qui le dit. Paul, lorsqu'il dit dans le chapitre, dans 2 Corinthiens, au chapitre 3, versets 5 et 6, j'ai mentionné juste qu'est-ce que le texte voulait dire en gros. Et je n'ai pas écrit le texte parce que si vous voulez le lire, vous devez tourner votre parole de Dieu à cet endroit-là pour pas que vos doigts y paraissent. 2 Corinthiens 3, 5, « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Notre capacité vient de Christ. Ce que nous sommes capables de faire, c'est par sa force toute puissante. Et ça, il faut le reconnaître. Parce que si nous prenons sur nous-mêmes le fait de dire, hey, j'ai réussi à faire ça et que je me pète les bretelles, j'ai travaillé tellement fort, hey, j'ai fait une bonne prédication à soir, ça a marché, c'est au bout. Nous nous induisons d'erreurs. Nous nous enduisons d'erreurs. Ce n'est pas vrai. Ce que je peux faire, mes capacités, viennent de sa force toute puissante. Et gloire à Dieu que ce soit comme cela, afin que personne ne se glorifie lui-même. Afin que je puisse passer dans les portes en arrière, quand il va n'y avoir rien qu'une d'ouverte. Par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et là, le texte nous parle d'une armure complète. D'une armure où ce qui ne manque absolument rien. Il ne manque aucune pièce d'équipement. Tout y est. On ne verra pas ce soir les pièces d'équipement. On ne verra pas l'armure au complet. On va voir ça une autre fois. Nous sommes que dans la préparation. Et l'armure dont il est question ici, c'est l'armure d'un soldat lourdement armé. Ils pouvaient avoir des uniformes d'apparat où ce qu'ils pouvaient circuler en ville, il n'y avait pas besoin d'autant de choses. Ils pouvaient peut-être laisser faire le casque ou laisser faire la ceinture. Mais lorsqu'ils allaient au combat, c'était un homme lourdement armé. Ils étaient prêts à toute éventualité. Ils ne devaient jamais rien lâcher de son armure. Il me semble de voir le soldat qui arrive et dit « Oh, les ennemis sont là, j'ai oublié mon épée au camp. » N'a rien oublié. L'armure était complète. Mais la plus grande particularité de cette arme, c'est que ce sont les armes de Dieu. Ce n'est pas nos armes. Ce n'est pas nos capacités. Ce n'est pas nous qui avons développé quelque chose. Ce n'est pas notre expérience. Ce sont les armes de Dieu qui font de l'effet. Ce sont des armes et leur source n'est pas terrestre, mais elle est céleste. D'ailleurs, Romains 13, 12 nous dit que ce sont des armes de la lumière. Il est impossible à l'homme de faire des armes de la lumière. Ce ne sont que des armes de noirceur, de destruction. Les armes de Dieu, contrairement à tout ce que l'on peut penser, sont des armes qui mènent à la lumière. Il ne peut exister de meilleure arme contre le prince de ce monde de ténèbres. Et on voit le combat. La lumière et la ténèbre. Les ténèbres. On voit le combat. Vous êtes de la lumière et le monde est des ténèbres. Et Dieu veut qu'on prenne ces armes de lumière. Ces armes qui ne nous laissent pas dans le noir. J'ai pas l'habitude d'avoir peur de beaucoup de choses. Mais cet été, j'étais au camp camp Joie-de-Vivre à Gaspésie. Et j'étais dans une cabine où ce qui faisait complètement noir, dans le bois. Vous savez, dans le bois, comment est-ce qu'il peut faire noir? Puis tu te regardes la main comme ça, puis tu ne la vois pas, là. Complètement noir. Ça m'arrive très, très rarement, mais là, ça m'est arrivé. Je n'étais pas capable de dormir. Et je manquais d'air. Je me dis, je ne suis pas claustrophobe, moi, je suis bien trop macho pour ça. Eh oui, des claustrophobes. Dans le noir le plus total, tu n'es pas capable. Il a fallu que j'allume ma lumière, puis là, je m'endormais. Puis là, quand la lumière était éteinte, là, je me réveillais, puis encore dans le noir. J'aime pas le noir. Le noir total, je l'aime pas. J'ai besoin, dans ma vie chrétienne, de ces armes de lumière. Ces armes qui vont me donner l'assurance, qui vont me donner la sécurité, qui vont me donner la confiance dans mon pas. Dieu me donne ses armes pour cela. Lorsque je vais affronter l'ennemi, lorsque l'ennemi est qui est plus fort que moi, et je dois l'admettre, l'ennemi est beaucoup plus fort que moi, j'ai les armes de lumière qui me donnent cette assurance, cette capacité de l'affronter, qui par moi-même, je suis vaincu. L'équipement de Dieu me garantit contre les batailles surprises. Les armes de Dieu me garantissent contre les combats à long terme, les victoires durement arrachées, où ce que le mal nous garde, où ce qu'on a de la misère à s'en sortir, où ce que ça prend des années, des semaines, des mois, des années à s'en sortir. Il y a des problèmes que les gens vivent quelquefois qui sont difficiles à passer. Ils ne veulent pas les vivre, mais ils sont prisonniers de ce mal-là. Dieu nous donne les armes pour être victorieux dans cela. Dieu nous donne les armes pour venir à bout des combats intenses, des attaques surprises, mais intenses de l'ennemi. Dieu nous donne les armes pour passer au travers de cela aussi. On peut faire confiance aux armes de Dieu. Un homme bien entraîné qui est fortifié dans le Seigneur, qui a les armes de Dieu et qui s'en sert, a la victoire. Car les armes de Dieu sont vraiment efficaces. Mais vous avez besoin des armes. Jamais aucun soldat ne s'aventurerait dans un combat sans avoir les armes qui conviennent au combat. Il me semble de voir le soldat qui arrive avec « Je vais tout vous tuer. » C'est peut-être pas assez gros. C'est pas la bonne arme pour le combat qui a amené. Les armes de Dieu, les armes de lumière sont les armes que le chrétien a besoin. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Et on va vous parler des armes qui ont un rôle défensif. Vous avez des armes qui ont un rôle offensif et d'autres qui ont un rôle défensif. Et les armes qui ont un rôle défensif servent à tenir ferme afin de ne pas céder le terrain que nous avons gagné jour après jour, que le Seigneur nous a donné de gagner. Lorsque Christ est venu dans votre vie ou dans ma vie, on a commencé là une guerre contre le mal. Jour après jour, Christ nous a formés. Christ nous a donné, nous a transformés afin qu'on gagne du terrain sur le mal et qu'on soit de plus en plus ressemblant à Christ. Ça me fait penser, j'avais annoncé l'Évangile à un jeune homme. Il l'avait accepté, ça avait été c'était un beau témoignage. Je ne le vous dis pas parce qu'il va probablement vous le dire un jour lorsqu'il va se faire baptiser. Mais j'annonce l'Évangile, il accepte le Seigneur fidèlement. C'était clair. Une semaine après, je le rencontre parce que j'ai un suivi avec. Et il dit, il y a une affaire que je ne comprends pas. Il dit, ça fait une semaine, là. Puis il dit, je vois tous mes péchés. Ah ouais, wow, c'est bon ça. Puis il dit, c'est pas tout, je vois tous ceux de mes chums aussi. Ah, tant mieux. Il commençait sa guerre contre le mal. Il était devenu un combattant. Et déjà, il voyait ce qu'il avait à combattre. Mais il n'a pas fini. J'ai pas fini. Puis je suis convaincu que Trevor n'a pas fini non plus. Le combat est continuel. Il arrêtera lorsque le Seigneur viendra nous chercher. Ses armes nous donnent la puissance pour retenir le terrain acquis depuis nombre d'années pour la gloire de Dieu sur le mal. Et on sait qu'il existe. Chaque victoire en Christ ne fait pas plaisir à l'ennemi. Je peux vous le dire. Il cherche à nous faire vaciller sur notre position de chrétien. Et sa recherche est constante. Il ne peut pas nous ramener sur son côté. Notre frère nous le disait ce matin, nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous appartenons à Christ, envers et contre tout. Même si aujourd'hui nous disions, non, je ne veux plus appartenir à Christ, c'est impossible. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Mais par contre, il peut faire que nous vacillons sur notre position, que nous soyons des chrétiens en défaite, que nous soyons découragés, que nous soyons inquiets, que nous n'ayons pas la victoire. Voilà ce que Satan aimerait. Satan était le père du mensonge. Il utilise toutes sortes de ruses et toutes sortes de stratagèmes. Le terme des ruses du diable, le terme utilisé, c'est méthodia. Le terme grec, c'est méthodia, qui est traduit par un mot connu, méthode, stratagème, sournoiserie, astuce, tromperie. Satan a un plan précis. Satan a un plan bien élaboré. C'est un être intelligent qui sait exactement où il s'en va et comment est-ce qu'il s'en va. Il n'a pas la préscience de Dieu. Il n'a pas l'omnipotence de Dieu. Il n'a pas tout ce que Dieu a, mais il a l'expérience. Et il sait très bien comment nous attaquer. Le terme méthodicien a été utilisé pour décrire les attaques d'animaux sauvages dans le temps des Éphésiens, qui attendent le moment opportun pour attaquer. Et la ruse de Satan est de faire croire qu'il n'existe pas ou qu'il a très peu d'influence sur les circonstances de la vie. Satan voudrait se dissimuler et il prend toutes sortes d'images. Ça ne lui dérange pas d'être porté en dérision, d'être habillé en noir avec des cornes rouges puis un trident dans les mains rouges. Ça ne dérange pas. C'est des clowneries, ça. Mais tant qu'il n'est pas mentionné, mais Satan est là, est un lion rugissant autour de nous, qui attend le moment précis, qui attend le moment où il va nous attaquer. Et ce moment-là, il commence à nous connaître et il sait quand nous sommes faibles et il sait comment attaquer. Et lorsque nous parlons de faiblesse, nous disons, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est un rusé, c'est un sournois, c'est un hypocrite, un menteur, c'est même le père du mensonge. Jean 8, 44. Et la seule véritable protection contre Satan sont les armes de lumière de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et là, Paul prend une autre image. Lutter est le mot palé, P-A-L-E, qui parle d'un duel, d'un corps à corps, homme à homme, dans une arène. C'est l'image de lutteur. Dans le temps des Éphésiens, le terme lutter parlait de lutteur qui était dans une arène. Et le vainqueur tenait le perdant à la gorge, dans le but de lui arracher les yeux pour qu'il soit aveugle pour le reste de ses jours. C'était le lot du vainqueur, c'était le lot du perdant. Vous imaginez-vous, lorsque Paul parlait aux Éphésiens et qu'il amène cette image, ça doit être effrayant. Ouh. Tu vous dis, on va aller se battre? Là? Non, non, on va laisser faire. Là. Les lunettes, c'est assez. L'image nous parle d'un combat individuel et particulier à chacun. Votre combat n'est pas mon combat. Votre combat est individuel. C'est à vous, ça vous appartient. C'est une responsabilité personnelle de revêtir les armes de Dieu. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes du monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne voudrais pas avoir à expliquer toute la hiérarchie satanique qui existe. Ce n'est pas le rôle de tout cela, je crois. Mais le rôle, c'est que la description qu'on en fait ici, c'est qu'il y a justement une hiérarchie. C'est un monde bien organisé. C'est un monde bien structuré, qui sait exactement où il s'en va. Et chaque autorité et domination ont quelque chose à faire de particulier. Et ils sont capables de faire des choses extraordinaires. Même Satan est appelé un ange de lumière. Il pourrait vous apparaître en très bel ange. Mais ça reste Satan pareil. Il y a une hiérarchie qui existe et qui est bien organisé. Le monde du mal n'est pas à prendre à la légère. Le monde du mal devrait nous faire peur. Est-ce qu'il vous fait peur? Ou est-ce qu'on embarque dans le monde en disant, « Oh, Satan, l'enfer, voyons donc. » Non, non. Prenons ça au sérieux. J'ai peur de son pouvoir. J'ai peur de, parce qu'il a une grande quantité d'êtres qui existent. Je ne veux pas savoir tous ses ennemis, mais je sais qu'ils existent. Et je ne veux pas aller plus loin. Dieu nous demande, par ces textes-là, faites attention. Faites attention à ceux que vous ne voyez pas et qui peuvent être une influence terrible dans votre vie. Je ne suis pas encore rendu à la conclusion, j'ai été trop vite. Je vais finir par avoir quelqu'un qui va le faire pour moi, je pense. Je vais toujours le faire moi-même. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Paul répète, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Comme il est dit au verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Et au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu. Il répète, qui met un emphase encore plus. Mais il rajoute le facteur temps, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenir ferme dans le mauvais jour. C'est soulageant, il n'y en a qu'un. Le mauvais jour. Ça ne vous surprend pas qu'il y en ait juste un. Mais c'est le jour qui se répète. Aujourd'hui, j'ai eu à affronter le mal. Demain, j'aurai à affronter le mal. Après-demain, j'aurai à affronter le mal. Et ce mauvais jour-là va se continuer jusqu'au retour de Christ. Aujourd'hui est le mauvais jour. Et nous devons, nous, résister. Le mot « mauvais jour » ici, c'est en grec, c'est poneros. Et poneros, c'est le jour où le mal s'oppose au bien. Et la journée où ça va arriver, je veux dire, c'est le ciel, ça. La journée où ce que le mal ne s'opposera plus au bien, on va appeler ça le ciel. Et on va glorifier Dieu en toute liberté. Mais ça, ce n'est pas aujourd'hui. Et tenir ferme après avoir tout surmonté. Le fait de prendre les armes de Dieu nous permet de résister et de tout surmonter. Le fait de prendre les armes de Dieu nous permet de résister et de tout surmonter. Et l'inverse est aussi vrai. Le fait de ne pas prendre les armes de Dieu, le fait de négliger de se fortifier en Christ, nous amène à la défaite. Comme vie chrétienne. La parole de Dieu nous parle à deux ou trois endroits dans Jacques 4, 7 et dans 1 Pierre 5, 9 que la manière de vaincre l'ennemi est de lui résister. Nous n'avons pas à le combattre, nous avons à lui résister. Je n'embarquerai pas dans ce que tu veux que j'aille. Je n'irai pas où ce que tu veux que j'aille. Je n'embarquerai pas, je ne me laisserai pas influencer par le monde. Je vais arrêter mes pulsions intérieures que tu veux toujours motiver encore plus. Parce que Dieu ne veut pas cela. Je vais résister à la tentation. Et j'ai besoin des armes de Dieu. Mais il ne servira à rien de résister si nous n'allons pas jusqu'à la fin, si nous ne surmontons pas tout. Il y a un verset, la première fois je l'ai lu dans Hébreux 13, 7, qui me parle. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Considérez quelle a été la fin de leur vie. Est-ce qu'ils ont tout surmonté? Est-ce qu'ils ont résisté? Et c'est ce que Dieu nous demande. J'aimerais être capable de dire à la fin de ma vie, considérer la fin de ma vie. Dieu a travaillé dans son cœur. Dieu a pu être glorifié. J'aimerais qu'on dise ça de moi. Et je suis convaincu que comme chrétien, vous aimeriez qu'on dise ça de vous. Considérez quelle était la fin de leur vie. Est-ce qu'ils ont résisté? Est-ce qu'ils ont tout surmonté? En conclusion, par la relation que j'ai avec Christ, par la relation intime que je développe jour après jour, par la force que je tire de lui pour accomplir sa volonté, par l'armure qui me revêt constamment et en permanence, par les armes de lumière de Dieu, et par la fidélité à cet engagement-là, je pourrai résister et tout surmonter. Et c'est ce que la parole nous dit. Vous n'êtes pas laissé à vous-même. Vous avez toute cette panoplie-là, cette force de Dieu, ces armes de Dieu. Et vous êtes capable, et vous avez déjà la victoire en Christ. Vous pouvez résister et tout surmonter. Mais faites attention. Vous avez besoin des armes de lumière. Et vous avez besoin de la force de Christ. Merci Seigneur, merci infiniment pour permettre que nous puissions voir le combat dans lequel nous sommes. Nous avons besoin de voir, premièrement, l'ennemi. Nous avons besoin, Seigneur, d'aller plus loin. Nous avons besoin de reconnaître nos faiblesses aussi, de pouvoir te les confier. De pouvoir montrer, Seigneur, qui nous sommes vraiment, de qu'on puisse voir nous-mêmes qui nous sommes vraiment. Révèle nos cœurs. Révèle-nous qui nous sommes. Que l'on puisse regarder dans le miroir de l'esprit et que l'on puisse se voir réellement afin que, en toi, qu'on puisse aller chercher la force pour passer à travers tout cela. Merci, Seigneur, pour tes armes. Tu as développé un système d'armement qui amène à la lumière, qui veut me mettre dans la sécurité, dans la confiance, qui veut me mettre du côté de la victoire. Merci Seigneur parce que tu me donnes la possibilité, jour après jour, d'être fidèle à cet engagement-là que je vais porter tes armes. Merci parce que tu me donnes la capacité de résister et de tout surmonter, pour ta gloire et pour ton nom. Et un jour, j'aimerais que tu me dises, Seigneur, viens ici, bon et fidèle serviteur. Voilà ce que j'aspire pour toi, parce que toi, tu m'as aimé le premier, j'aimerais te le rendre de cette manière-là. Toujours pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.